Donc voilà, troisième interview, troisième volet de ces interviews ici à Angoulême en direct de la Maison des Auteurs. Nous recevons Daniel et Ben, de la maison d'édition Atrabile. Alors première question qu'on pose souvent à nos interlocuteurs quand on parle comme ça d'une maison d'édition, c'est la genèse. Comment Atrabile a commencé? Où est-ce que ça a commencé? Et voilà, ça c'est la première chose qui nous intéresse et qui intéresse à mon avis les auditeurs. C'est un peu ce qui se passe derrière Atrabile, le nom qu'on voit sur les bouquins.
Donc Atrabile, on a commencé il y a 15 ans. Donc, on a 15 ans cette année, à Genève en Suisse. Et c'était parti d'un constat assez simple, c'est qu'en fait il n'y avait pas de structure pour publier des auteurs locaux. Ben et moi, on avait participé à une, plus ou moins de loin à une maison d'édition qui s'appelait Atos ou A2Z. Une petite maison d'édition genevoise qui avait pas mal d'ambition, qui a publié entre autres les premiers livres de Fréon, qui a publié aussi le premier livre de Zep, qui avait une revue qui s'appelait Sauf qui peut, dans laquelle pas mal de, à l'époque, jeunes dessinateurs ont fait leurs premiers pas, pratiquement toute la scène genevoise en fait, hein, Frédéric Peters, Pierre Vazem, même Ben, donc mon collègue en tant que dessinateur avait fait une page, hein. Je sais plus ce que j'ai dit déjà, Baladi, Elguer Roman, Xavier Robel, enfin vraiment tous les gens de Genève ont fait leur premier pas dans ce magazine qui était plein de bonne volonté mais qui n'était pas très bien fichu. Et donc ils étaient pleins d'ambition, ils voulaient faire les choses en grand, ça s'est terminé plutôt en eau de boudin, ils se sont fâchés un peu avec tout le monde, ça s'est cassé la figure. Donc derrière tout ça, c'est comme s'ils avaient essayé de faire pousser une fleur et qu'elle allait faner derrière. Donc nous on s'est dit que c'était un peu dommage. Moi, j'écrivais des petits articles dans cette revue. Et puis surtout, on participait à des séances de rédaction assez rigolotes, assez animées. Donc, on a vraiment croisé toute cette scène qui était un peu en devenir. Et on s'est dit, bah, c'est dommage. Donc, peut-être, ça serait pas mal de faire un petit fanzine, une petite maison d'édition pour que ces gens continuent à montrer leur travail, à avoir quelque chose sous le bras s'ils vont démarcher un peu plus loin. À l'époque, bah, du coup, à Genève, il n'y avait vraiment plus rien, quoi. Donc, il y avait des gens à l'époque qui allaient bosser à Paris, qui devaient se déplacer à Paris pour aller travailler. C'était avant Internet. C'était le Moyen-Âge, quoi. Wow. Donc voilà. Et puis, je pense pour nous aussi, c'était une façon de participer à un médium qu'on adorait, qui était la bande dessinée, quoi. Donc on se voyait un peu comme une espèce de tremplin, quoi, une espèce de coup de main, et puis c'était un moyen de toucher à quelque chose qu'on aimait bien, on connaissait tous ces gens, donc on a fait Bill Noir Zéro, qui était vraiment un fanzine photocopié, couverture sérigraphiée. En même temps, il y a Frédéric Peters qui a sorti un tout petit bouquin qui s'appelait Fromage Confiture, donc c'était, voilà, c'était des tirages à 200 exemplaires photocopiés. Et puis de fil en aiguille, les choses se sont un peu étoffées. Tout d'un coup, on avait plutôt envie que les gens restent près de nous plutôt que de dire partez loin, trouvez-vous un éditeur. On s'est dit, tiens, devenons un éditeur. Donc de fil en aiguille, voilà, ça a pris un peu de... Mais donc à la base, c'était vraiment basé sur la scène genevoise, quoi. Et ce qui est rigolo, c'est qu'à la même époque, à peut-être 10 mois, un an près, il y a deux autres maisons d'édition qui se sont montées. Donc il y a Nicolas Robel qui est dessinateur et graphiste, qui a monté une boîte qui s'appelait Bulb Comics, qui existe toujours, qui font des toutes petites bandes dessinées dans des espèces de petites boîtes. Et Christian Amberdreau, qui était sérigraphe de métier, qui a monté une maison d'édition qui s'appelait Drosophile, qui était vraiment basée sur la sérigraphie. Donc il faisait ses grandes revues sérigraphiées magnifiques, qui ont eu entre autres un prix à Angoulême, je crois, du meilleur fanzine il y a, je sais pas, 12 ans, 13 ans, 14 ans, je sais pas. Donc il y avait vraiment une effervescence à Genève, il y a 15 ans, 14 ans, quelque chose comme ça. On sentait qu'il y avait une scène qui était petite, mais qui était bouillonnante. Il y avait de la création. Trois éditeurs pour une toute petite ville, parce que Genève est une petite ville. Plein d'auteurs, plein de choses qui se passaient, quoi. Voilà.
Et pourquoi ce choix Atrabile, Bill Noir, ce rapport à l'humeur, à la mélancolie, c'était...
C'était un... Vas-y.
Ben, on cherchait un nom au début, quand on a décidé de monter tout ça. On a ouvert le dictionnaire, et on cherchait des mots comme ça, des mots qu'on connaissait pas bien, et on est tombé sur Atrabile, donc on n'a pas fait beaucoup de pages.
Oui, c'est vrai.
Et en fait, ça correspondait assez bien à une espèce d'humeur, un truc sans être complètement asocial, un côté où une sorte de critique vis-à-vis des gens, le côté un peu... comment dire Voilà.
Est-ce que c'est lié à la ville de Genève, que par ailleurs on décrit comme très propre, très lisse, ou quelque chose comme ça ?
Ah, on n'a pas eu cette réflexion-là, mais peut-être que ça a une influence. Il y a le côté protestant qui est très marqué, évidemment, à Genève. Mais nous, c'était peut-être plutôt pas en référence, mais justement en réaction.
Alors du coup, c'est un peu ce qu'on a vu. On en parle notamment dans le Bill Noir spécial ici. Il y a ce côté proche et toujours maintenant, parce que la maison d'édition, elle a 15 ans, elle a grandi. Mais donc justement, comment s'est fait cette évolution et ce développement, avec un attachement toujours à cette scène genevoise, comme on l'appelait, avec des auteurs présents et qui continuent à publier chez vous, alors que par ailleurs, on a cité Frédéric Peters, mais il y a Isabelle Pralon, ces gens publient aussi ailleurs. Et puis il y a une ouverture à beaucoup d'autres auteurs, il y a Jason par rapport à la Norvège, mais il y a aussi du côté asiatique, déjà beaucoup plus loin, avec Shioi, avec Kim Subak. Et donc comment tout ça s'est fait progressivement
Là on est parti du fanzine photocopié quelque part du côté de 97, si j'ai bien calculé. Et donc il y a un moment donné où il y a une saute, où il y a quelque chose qui se passe, une sauce qui prend.
Peut-être un bouquin aussi important, des étapes comme ça qui font que...
Ouais, je vais peut-être commencer, puis Daniel il continuera. Il y a plusieurs choses. Par rapport à tout ce que tu disais, il y a des rencontres, en particulier à Angoulême. Jason, c'est typique, qui nous a amené à éditer des étrangers, entre guillemets, par rapport aux Genevois. Et puis, il y a aussi l'effervescence des différentes maisons d'édition qui se passaient il y a une dizaine d'années, avec l'association, avec Ego Comics et avec Frémok et tout ça, où on s'est regroupé aussi pour penser à la diffusion-distribution, parce qu'au départ, dans un esprit de fanzina, on voulait s'auto-distribuer, diffuser. Plutôt en ferme, mais les libraires, ils rigolaient. Donc c'était aussi une idée de devenir plus professionnel, mais du coup d'avoir les armes pour le faire. Et évidemment que Pilule Bleue a changé. Je ne sais pas si ça a changé la donne, mais c'est un livre important.
Oui, parce qu'on regardait, il y a, forcément, il y a le Pilule Bleue en termes de visibilité, il y a les Lupus aussi. On voyait, je crois qu'ils ont quasiment tous été nominés à Angoulême, et puis il y en a un qui a gagné un prix essentiel. Donc là, il y a en effet comme ça des choses. Et puis on ne l'a pas amené pour rien, celui-là, évidemment, mais donc le 5000 km par seconde que j'ai devant moi. Ça, c'est aussi une question qu'on voulait vous poser. C'est. Est-ce que ça, c'est votre Persepolis ou est-ce que, ou pas nécessairement, comment est-ce que ça se passe par rapport à un Fauve d'or comme vous l'avez eu l'année passée
Alors, je reviens un petit peu sur la question précédente. C'est vrai que l'évolution, elle s'est faite d'une façon très relativement lente, par petits à-coups. Effectivement, moi, ça me fait plaisir qu'on cite Jason, parce que Jason, pour nous, c'est vraiment été, je trouve, le premier pas vers quelque chose de très différent, en fait. Parce qu'on était très confinés sur la scène genevoise, c'était une volonté. Et Jason, c'était vraiment une rencontre super importante, parce que c'est la première fois qu'on publiait quelqu'un qui était vraiment très loin de nous, en plus qui était un peu un pari, parce que les premières pages qu'on a lues de Jason, c'était des pages en norvégien. Il nous a donné son fanzine, on lui a donné un bill noir, on a complètement flashé sur ce truc, on s'est dit mais c'est incroyable, c'est absolument génial. Donc Jason, c'était le premier bouquin où tout d'un coup, il y avait une ampleur un peu différente. Tout d'un coup, on a eu aussi de la presse d'une façon très étonnante en Suisse et en France. Donc ça, c'était une étape. Pilule Bleue, ça a été une autre étape aussi super importante, parce que Pilule Bleue, pour nous, on se disait quand même, bon, c'est un bouquin qu'on adore, mais bon. Parce que évidemment, dans l'entourage de Frédéric, il y avait un peu des inquiétudes, comme c'est quelque chose d'un bouquin super personnel. On disait, mais est-ce que c'est vraiment intéressant que tout d'un coup, des milliers de personnes lisent ce truc? On disait, mais il n'y aura pas des milliers de personnes qui vont lire ce truc. Et la première mise en place, je m'en souviens, c'était 800 exemplaires. Donc notre diffuseur à l'époque, le Compteur des Indépendants, je lui ai dit, allez, prends-en 1000, quoi. Sur une palette, il y en a 1000. Je t'en donne 1000. Ne me fais pas défaire une palette. Il me dit, non, le bouquin, il est super, mais c'est difficile. Tu sais, on va en prendre 800, quoi. Voilà. Et à l'époque, ce qui était génial, parce que ça a beaucoup changé, il y avait beaucoup moins de bouquins. Donc le bouquin, c'est fait tout seul, en fait. C'est fait grâce aux libraires et aux lecteurs. Hein. Et ça a vraiment marcher tout seul par la qualité propre du livre et par le travail des libraires qui étaient surtout très attentifs à l'époque. C'était 2001, je crois. Autour de cette littérature-là, ils étaient très attentifs à ça, quoi. Et s'il y a un Persepolis and Give chez Atrabile, c'est plutôt Pilule Bleue. On retire tous les 16-18 mois 3-4 000 exemplaires. Donc on doit être à plus de 30 000 exemplaires maintenant. Et ce qui est génial, ce qui n'arriverait pas maintenant, c'est que c'est un bouquin qui a toujours marché et qui continue à marcher de la même façon. Si un phénomène arrivait aujourd'hui dans la situation à laquelle est le marché de la bande dessinée, ce serait plus un pic, quoi. Je pense qu'on en vendrait 15 000, 20 000 comme ça en deux mois avec de la presse, des télés, des trucs, puis après ça retomberait, ce serait beaucoup plus calme. Ce qui est un petit peu le cas avec le bouquin de Manuele. Le bouquin de Manuele, on était super heureux de le voir parce que c'était vraiment pour moi un cas d'école, quoi. Manuele, c'est un type qu'on a rencontré à Angoulême. Il nous a proposé un premier bouquin en noir et blanc qui était vraiment un premier livre avec les défauts et les qualités d'un premier livre. On a publié parce qu'on disait, tiens, il y a un truc intéressant. Ensuite, il a fait un bouquin qui s'appelait Icarus, où il essayait de faire quelque chose de plus intellectuel, de plus cérébral, de plus expérimental, qui a été un bide incroyable. Un bouquin sur lequel on a bossé des mois, lui aussi a bossé des mois à tous les niveaux techniques, éditoriales. C'était un bide monstrueux. Donc, c'est des livres, je pense, que pratiquement personne n'aurait publié à l'époque. Et son troisième bouquin chez nous, son quatrième bouquin en tout. Tout d'un coup, c'est l'explosion, c'est tout d'un coup au niveau à son niveau en tant qu'artiste, il y a d'un coup une vraie maturité. Tout d'un coup, un livre qui a vraiment quelque chose de plus, une ampleur plus importante, plus d'ambition à tous les niveaux, plus de potentiel. Un bouquin qui marche bien auprès des libraires, qui commence à ronronner. Tout d'un coup, il y a le prix de Le Fauve d'Or à Angoulême, qui tout d'un coup, évidemment, est une explosion commerciale. Les choses brutalement parce que ça a eu peu d'impact au niveau des critiques, ça a eu peu d'impact au niveau des médias. Par contre, les libraires, béni soit-il, ont vraiment joué le jeu autour de ce prix-là, quoi. À faire des piles, à faire des murs, à inviter Manuele, à essayer de faire des dédicaces, mais aussi des rencontres, des choses plutôt intelligentes. Donc, ça a été vraiment une année assez folle autour de ce bouquin-là, quoi. Maintenant, on ne sait pas si c'est un livre qui va s'installer vraiment comme Pilule Bleue ou si lundi prochain, quand il y aura le nouveau Fauve d'Or, celui-là va être balayé et va disparaître des étals et que ce sera le nouveau Fauve d'Or qui va prendre sa place.
Pilule Bleue est quasiment un bouquin historique. Il traite du sida. Il y a un point de repère dans la thématique qui fait que sa durabilité tient aussi à ça, à la manière dont il vient synthétiser un rapport à cette maladie, à un moment donné, lui redonner l'ampleur d'une vie personnelle, donc quelque chose qui est un souffle vivant. Donc alors qu'ici, on est devant quelque chose qui est plus ténu, plus littéraire, plus dans le propos fin, mais aussi qui appartient à l'histoire des récits. Alors que Pilule Bleue, il y a peut-être ce côté un peu historique qui fait, à mon avis, sa longévité, qui fait repère, quoi.
Ben, ce qui est paradoxal par rapport à ce que tu dis, qui est peut-être vrai, c'est qu'en fait, on en parlait récemment avec Frédéric et sa famille. Et on disait qu'en fait, justement, paradoxalement, le bouquin est en fait très daté. C'est-à-dire qu'au niveau de la médecine, du traitement, ça n'a plus rien à voir. Ça a complètement changé. Oui. L'histoire de trithérapie et tout ça, ça a complètement changé. Donc le bouquin est médicalement très daté, en fait. Et puis aussi, au niveau de l'actualité, je veux dire, à un moment, le sida, c'était quelque chose dont on parlait beaucoup. Oui. Maintenant, c'est devenu vraiment une maladie dont on parle très, très peu.
Oui, tout à fait.
On en parle dans des milieux un peu plus, impliqué et surtout pour l'Afrique parce que c'est encore là-bas que ça fait beaucoup de dégâts. Je sais pas trop.
J'avais un professeur en art qui disait tiens, c'est marrant, en tant que professeur je vois les époques où j'étais jeune se réduire peu à peu dans les musées. Il disait voilà, au musée de Cologne il y avait deux salles pour le pop art, et puis d'année en année je vois des œuvres disparaître, et finalement le pop art se voit réifié dans 4 ou 5 objets dans un musée, et qui est une Marilyn de Warhol, un Rosenquist, enfin, donc quelques pièces comme ça maîtresse qui peu à peu éclipsent, et parce que le temps avance, d'autres pièces entrent au musée et donc on doit doucement réduire. Et j'ai l'impression que dans cette partition historique, justement, Pilule Bleue, même s'il est daté, et peut-être parce qu'il est daté, va être un de ces bouquins qui parle de cette époque, de ce rapport à la maladie, de comment elle a émergé, comment elle a bouleversé la donne dans les rapports interpersonnels, et ici, à travers d'une histoire émouvante, d'une histoire d'amour très forte entre un homme et une femme, et cet enfant qui est là, qui demande aussi sa part. Donc voilà, c'est dans ce sens-là que je parlais d'un...
Aussi par rapport au récit, enfin à l'histoire de l'autobiographie en bande dessinée, parce que je pense qu'effectivement il aborde, enfin comme on avait parlé il y a peu de temps de la censure du haut mal, par exemple, dans le rapport à l'autobiographie et la pathographie, comme on... C'est dommage à Vincent qui n'est pas avec nous aujourd'hui, mais il y a ce rapport-là. Moi, je voulais enchaîner sur votre travail sur les livres, parce que vous faites aussi des objets. Comment est-ce que vous envisagez, par exemple, quand vous devez travailler sur l'autre fin du monde, Ibn al-Rabin, ou pourquoi maintenant, par exemple, travailler sur une intégrale de Lupus ? Ce sont des gros projets, et je suppose que vous avez abordé ces deux gros bouquins de façon assez différente. Peut-être pas, je ne sais pas. Qu'est-ce qu'il y avait derrière chacun de ces projets, les risques aussi pour encourus, parce que je pense que l'autre fin du monde a été un projet, je crois, qui était risqué et qui a été compliqué à mettre en place aussi.
Alors, le truc, c'est que, comme pas mal d'éditeurs, on a des collections avec des formats préétablis. On essaye de... que les projets qu'on accepte de publier, qu'on décide de publier, aillent dans ces collections. La plupart du temps, c'est le cas. Et de temps en temps, ça ne va pas. Donc, il faut créer un objet pour l'ouvrage. Et puis, pour nous aussi, c'est super, super intéressant de faire ça. C'est ce qui fait que c'est intéressant de faire de l'édition et de faire des bouquins hors collection. C'est qu'il faut repenser les choses. Il y a une autre problématique, il faut la résoudre et tout ça. Donc, on essaie de le faire avec une certaine rigueur graphique qui nous est propre, quoi. Et après, il faut qu'on s'amuse. Donc, l'autre fin du monde, de toute façon, dès le départ, c'est un éclat de rire, quoi. C'est Mathieu qui vient nous voir un soir dans un bistrot à 2h du matin, qui nous dit, hey, je vais faire un bouquin de plus de 1000 pages, puis on éclate de rire, on dit super. Voilà, puis après, il faut le faire. Donc après, il y a la problématique. Pour l'autre fin du monde, ce qui est d'autant plus rigolo, c'est qu'on a dû balancer le premier tirage de 2000 exemplaires, parce qu'on a fait une grosse erreur en choisissant un papier de très bonne qualité. Qui était pas assez opaque.
Ça éventuellement.
Pardon ?
On peut couper ça éventuellement après au montage, ce genre de phrase, si vous voulez.
Non. Voilà. Et
c'est quelque chose dont, justement, par exemple, on peut en parler pour les auditeurs. Pourquoi est-ce que vous avez choisi un trop bon papier ? Par exemple, ça, ça fait partie des mystères de l'édition que, je pense, les auditeurs, par exemple, ne connaissent pas, ou quand on est amateur de bande dessinée ou lecteur de bande dessinée, on ne se rend pas forcément compte de ce que ça veut dire choisir un papier et pourquoi d'un coup vous dites on a choisi un trop bon papier. Je crois que c'est quelque chose d'assez mystérieux pour...
Bon, là, il y avait une contrainte technique, puisque comme on arrive à plus de 1000 pages, on a des problèmes de reliure, en fait, bêtement. Et on ne peut pas choisir n'importe quel papier, parce que le papier, en fonction de ce qu'on appelle sa main, est plus ou moins épais. Et si on dépassait, je crois, 6 cm de dos, on ne pouvait plus le relier en Europe. Et donc, ce n'était pas le but de faire des tours du monde pour essayer de trouver un relieur. Donc, on a choisi un papier plutôt fin. Et c'était plutôt transparent. Donc, voilà. C'est aussi... nous, c'est vrai qu'on apprend aussi avec les livres. Donc, plus on avance, meilleur on est. Mais, ouais, voilà. Donc, ouais, c'est un peu bête, parce que c'est vraiment une histoire technique qui a amené à des choix. Après, peut-être qu'il y a aussi des implications où on essaye d'aller voir l'imprimeur, d'aller sous presse pour voir comment ça se passe, de suivre en fait l'ensemble du travail. Et en l'occurrence, celui-là, on l'a un petit peu pas trop suivi aussi bien qu'on devait. Donc quand on a reçu le bouquin, ben, c'était pas possible. Donc on a trouvé un papier équivalent, quoi, au niveau de l'épaisseur, mais moins transparent, en gros.
Ouais. Mmh. Juste de rajouter, justement, parce que c'est vrai qu'en fait, le papier, pour nous, c'est super important. D'ailleurs, c'est un truc qu'on retrouve chez beaucoup de petits éditeurs, c'est-à-dire c'est ce qui nous a distingués, sans faire trop d'amalgame, mais les entre guillemets petits éditeurs qui ont émergé dans les années 90, c'est justement l'idée de vraiment soigner l'objet, quoi. Et une des caractéristiques de ce qui, à nos yeux, fait un beau livre, c'est le choix du papier, c'est la qualité du papier. Donc la qualité du papier, ça veut dire qu'il soit beau au niveau de simplement de la vue, quoi, de sa couleur, de son toucher, de son épaisseur, et qui puisse bien rendre aussi les couleurs, c'est un livre en couleur, le noir, c'est un livre en noir. Donc il y a plein de paramètres, quoi. Et c'est vrai que pour L'autre fin du monde spécifiquement, on avait pris vraiment un beau papier qui nous vient de Scandinavie, qui est assez connu, une marque assez connue, dont on n'a pas besoin de faire la pub. Mais dans cette épaisseur-là, il était vraiment trop transparent. Donc après, c'est vrai qu'on a dû se rabattre sur un papier qui était de moins bonne qualité, dans le sens où il était moins joli, mais où il était très opaque. C'est un papier qui est fait justement pour les livres très épais, quoi. Et voilà, et du coup, c'est comme le Lupus, on a aussi dû trouver un papier qui nous plaisait, qui était un bon intermédiaire entre le papier avec lequel, sur lequel il avait été imprimé à la base. Et voilà, et l'idée de faire des livres cartonnés, c'est aussi histoire de nous faire plaisir à nous, en fait. On pense qu'à des moments, ça a besoin d'être cartonné parce que c'est des gros livres, que c'est épais, tout ça. Mais c'est aussi parce que ça nous amuse de le faire, parce qu'on l'a très peu fait. Donc on joue avec ça parce qu'il y a des trucs incroyables à faire dans l'impression, surtout si on trouve des imprimeurs qui sont un peu, d'accord de jouer le jeu, quoi, qui sont aussi intéressés par ce genre de choses. Quoi. Trouver des papiers rigolos, faire du tamponnage à chaud, faire des trucs comme ça. C'est...
On a un peu l'autre question à 1000 points. On parlait là tantôt de la genèse, de la structure. L'autre question à 1000 points qu'on pose souvent, c'est la ligne éditoriale. Est-ce qu'il y en a une? Comment elle s'est constituée? On parlait de toute une série d'auteurs, de Stax plus Sainte-Genevoise, finalement maintenant d'auteurs de presque du monde entier. Comment est-ce que cette ligne éditoriale se construit? Là, on a la conversion, qui est un des derniers qui est sorti chez vous. Est-ce qu'il y a des choses, des types de récits que vous ne faites pas trop? Est-ce que ça marche par exclusion de trucs que vous voulez pas faire, ou alors c'est pour vous assez clair, c'est des rencontres, ça peut être plein de choses.
Il y a un mélange de tout ce que tu viens d'évoquer, en fait. Il y a un truc d'exclusion, ça c'est sûr. Il y a plein de choses qu'on n'a pas du tout envie de faire. De toute façon, c'est des trucs que je pense qu'on saurait pas vraiment faire, en fait, donc ça n'a pas d'intérêt.
Vous recevez des projets comme ça, par exemple
que... Tout le temps. Oui, on reçoit des projets tous les jours, et beaucoup, une bonne partie des projets, si ce n'est la majorité des projets, je n'ai pas fait les statistiques, c'est des choses qui sont juste pas du tout pour nous. C'est du 48 pages. D'aventure en couleur à l'ordinateur, enfin des trucs qui ne nous intéressent pas du tout, qui n'ont pas la place chez nous. Voilà. Donc ça, c'est facile. Après, c'est vrai que moi, je suis très attaché. Il y a deux tendances, en fait, chez Atrabile. Une tendance un peu plus bande dessinée, une tendance un peu plus vers l'art, entre guillemets, contemporain. Donc, Ben est un peu plus le versant dessin art contemporain. Moi, je suis super attaché à la narration. Et voilà, ça se fait un peu entre les deux. Mais c'est vrai que moi, je suis super attaché à la narration, quoi. J'adore les histoires, même tout en disant qu'en fait, les histoires, on s'en fout. C'est une espèce de paradoxe comme ça, mais moi, j'ai besoin d'un récit qui me prend quelque part. Et en même temps, je trouve un livre, c'est rarement son histoire. C'est l'histoire d'un mec à qui il arrive ça, en fait, on s'en fout un peu. Après, ce qui est important, c'est que la narration, le médium soit bien utilisé pour que le récit nous prenne, et que si tout se passe bien, il y a un sous-texte qui nous touche quelque chose, quoi. Quelque chose que le livre véhicule en plus quelque chose qui soit intéressant. Et de temps en temps, on se laisse aller à des choses un peu plus expérimentales, tout d'un coup, parce qu'on reçoit des projets, puis ça fait ting, comme ça fait tilt, comme ça, comme le projet de Greg Shaw, là, qui s'appelait Parcours Pictural, qui est de la bande dessinée abstraite, qui est un truc que Ibn Al-Rabin a initié, en fait, dans la revue Bille Noire. Et on trouvait à un moment que c'était un truc chouette, la bande dessinée abstraite, quoi, que c'était une façon d'expérimenter super intéressante, que ça développait plein de choses au niveau du langage. On a reçu ce projet qui était vraiment très proche, quoi, qui était vraiment... en parallèle, alors qu'apparemment Greg ne connaissait même pas vraiment ce que c'est Ibn Arabi. Je dis, c'est super, ça, il faut en faire un livre. Puis une fois de plus, pour nous, c'était excitant, quoi. Tout d'un coup, c'était pas un petit format noir et blanc autobiographique, c'était un truc qui sortait du cadre. En même temps, il me semblait que c'était un truc qu'on pouvait faire. Donc, il y a un peu tout ça. Et puis, pour revenir encore un peu en arrière, on a employé le mot rencontre, il me semble, plusieurs fois. Et pour nous, c'est super important, en fait, le travail qu'on fait, par exemple, avec l'Asie, plus particulièrement la Corée, Hong Kong, maintenant pas mal avec l'Italie, c'est surtout à cause des rencontres. Donc c'est souvent des rencontres avec des auteurs, mais aussi des rencontres avec des éditeurs. Donc on a senti des espèces de vibrations comme ça magiques avec un petit éditeur italien qui s'appelle Canicola, un éditeur coréen qui s'appelle Sai Comics. Donc on sent qu'il y a un parallèle entre eux et nous, et qu'on se dit mais il y a quelque chose qui se passe, quoi. Donc avec ces gens, il y a des échanges. Et tout d'un coup, on va, entre guillemets, piocher dans leur catalogue parce qu'il y a des choses qui nous semblent intéressantes. Mais voilà, on fait peu, par exemple, de l'achat de droits, comme on dit, comme on fait beaucoup à Angoulême, où il y a un stand qui est dédié à ça, quoi. Hein, où les éditeurs viennent présenter à d'autres éditeurs leurs derniers projets, puis ils montent des catalogues, des classeurs, tout ça, ils font l'article pour... Voilà. Ça, on n'a pas tellement envie de faire. Mais j'ai pas envie de faire mon marché comme ça avec un mocadi. Puis tiens, je vais prendre un petit auteur espagnol, un petit auteur italien, tiens, un petit truc américain. Un truc japonais serait pas mal, ça ferait bien dans le catalogue.
C'est à la mode.
Voilà. C'est moi, j'ai besoin qu'il y ait une rencontre, quoi. Et il y a eu ça avec Chihoy de Hong Kong, qui est vraiment un mec adorable, un super artiste. Puis quelqu'un qui essaye de faire le pont vraiment entre l'Asie et l'Europe, plus particulièrement entre la scène de Hong Kong et la France. Avec. Kim Dae-jung, l'éditeur de Sci Comics, avec les gens de Canicola, quoi. Donc ça aussi, ça fait une ligne éditoriale, quoi. Parce que la ligne éditoriale, c'est autant nous qui la faisons que nos livres, en fait, qui la font, quoi. C'est nous... Voilà. Donc c'est un peu cliché, à peu près tout le monde dit ça, mais c'est vrai qu'on marche quand même pas mal par coup de cœur, quoi. Soit des projets, on les aime, on les publie ou pas, quoi. C'est assez, en fait, assez simple.
Oui, sinon, on aurait juste des choses qui seraient cohérentes avec un catalogue déjà établi et qu'on aurait dit « Ah, ça, c'est un livre pour vous. Ah oui, c'est un livre pour nous. On va le faire. » Donc, à un moment donné, ça ne peut fonctionner qu'au moment où on s'amuse, où ça relance quelque chose de l'activité, en fait. C'est assez cohérent.
Par rapport au côté art contemporain, entre guillemets. effectivement, moi j'ai de l'intérêt là-dedans, mais qu'on ne va pas forcément insuffler, on ne va pas devenir une maison d'édition d'art contemporain. Je dirais le domaine, mais Jason était déjà dans ce cas de figure, c'est plutôt ce que j'appelle les chercheurs. Donc c'est des auteurs de bande dessinée, on reste dans une autre bande dessinée plutôt classique, mais qui tout d'un coup. Joue sur l'ellipse entre deux cases d'une façon nouvelle ou c'est dans le dessin ou la façon de faire un phylactère ou voilà, tout d'un coup il y a des petits éléments qui sont complètement contemporains en fait parce que ça pouvait pas se faire avant.
Ouais, je pense que par exemple dans le Attent de Jason, la planche avec les 6 cases noires, c'est quasi pour moi quand je vois ça, c'est quasi au-delà de la bande dessinée, c'est purement la bande dessinée. Je trouve qu'il a, cette idée, juste au moment de la chute, de faire ces 6 cases noires et que ça dit quelque chose sur la bande dessinée qui est absolument incroyable et neuf. Et c'est pas juste des ellipses, c'est pas juste des cases blanches, c'est 6 cases noires l'une après les autres qui disent quelque chose de plus que seul, dans ce cas-là, la bande dessinée pourrait dire et qui trouve à ce moment-là et qui fait que, voilà, quand on lit ça, on se dit, mais c'est absolument... incroyable, c'est de la bande dessinée au-delà, c'est assez, assez fou comme planche. À un moment comme ça, on se dit, mais c'est ce gars, il a tout compris ou personne n'avait rien compris avant, enfin, c'est assez fou.
Du coup, par rapport à cette recherche, j'ai l'impression que Bill Noir a un peu ce rôle-là maintenant, à la fois de recherche de nouveaux auteurs et aussi de permettre à par contre, un noyau dur d'auteur, on avait un vieux Bill Noir, on l'a laissé chez nous parce qu'on était trop chargé, mais il est vraiment vieux. Parce que je devrais dire usé, en fait. Il est plutôt usé, tellement les gens l'ont lu. Dans ce noyau dur d'auteur, Bill Noir a l'impression... Enfin, j'ai l'impression que Bill Noir est aussi un lieu de recherche pour eux, du coup. Enfin, moi je le ressens comme ça. Il y a celui-ci évidemment
qui est donc le et voilà, noir sur post-it puisque ouais, les auditeurs ne voient pas
ils sont et donc voilà, j'ai l'impression que du coup comme Bill Noir paraît c'est une fois par an ou le 2012 va pas tarder bon voilà, c'était l'impression que il y avait ce lieu de recherche ou d'expérimentation qui s'exprimait notamment dans Bill Noir.
Ouais, c'est exactement ça, c'est le but. C'est vraiment devenu en tout cas le but de la revue. C'est à la fois de publier des gens qui n'ont jamais été publiés ou très peu publiés et à la fois de permettre de donner un petit espace de liberté à plein d'autres gens, quoi, à des auteurs avec qui on travaille habituellement et puis qui ne peuvent pas faire des choses. Frédéric Peters, pour moi, c'est l'exemple... Le plus marquant, quoi, qui fait vraiment qui expérimente des trucs dans Bill Noir, au niveau de la narration, au niveau de la forme, qui tout d'un coup refait un petit truc autobiographique, parce qu'il y a un truc qui lui tourne dans la tête, puis il a envie de le sortir, d'un coup il va expérimenter des trucs au niveau de la couleur. Donc voilà, donc il y a vraiment ce double. Voilà. Après, le problème de Bill Noir, c'est que sur les dernières années, les revues ont vraiment perdu complètement leur place dans les librairies. À un point où c'est devenu vraiment dur de les publier, en fait, hein, à tous les niveaux. Hein. Donc, on ne sait pas du tout quand sera le prochain Bill Noir, en fait. On avait annoncé qu'on en ferait un par an. C'est énormément de travail, quoi. C'est 19 auteurs, 20 auteurs, donc ça veut dire 20 petits livres, en fait. C'est l'équivalent de 20 petits livres, avec derrière zéro retour commercial, même un retour commercial négatif, en fait.
Le travail éditorial, est-ce que tu parlais de 20, 19, 20 petits livres, ça veut dire qu'il y a un suivi qui pourrait être l'équivalent d'un récit au long cours, où là, il y a un désir de travailler avec l'auteur, de relancer, de faire attention à certains passages, etc. Il y a aussi ce travail-là qui se fait ?
Moins, mais par contre, il y a tout le reste. C'est-à-dire, il y a le problème d'avoir les planches, il y a le problème de scanner les planches, il y a le problème de la traduction, il y a tout le côté technique. Mais effectivement, le seul truc où il n'y a pas, c'est vraiment cette espèce de rapport avec l'auteur au niveau éditorial pur, quoi.
On prend plutôt le récit d'une traite parce qu'on l'a vu, parce qu'on l'a revu d'une seule fois et on dit « Ok, je le prends ».
Non, mais c'est aussi un endroit où on peut se permettre de publier des choses qui sont bancales. Parce que souvent, moi, je trouve qu'il y a beaucoup plus d'intérêt dans les choses un peu bancales, un peu foireuses, ou en construction, qu'une espèce de récit complètement parfait, virtuose. Je trouve que c'est pas l'endroit, quoi.
On parlait avec Morvandieu de l'idée d'accident, et il y a ça, des accidents des trucs bancaux qui sont accidentés, mais où il y a effectivement un truc qui émerge de spontané, de soudain, d'inattendu.
Est-ce qu'on parlait tout à l'heure avec Misma du fait qu'une revue, eux, ils ont une revue, il y avait un effet de synchronisation parce qu'ils travaillent des récits où ils se passent la main de l'un à l'autre sur le même récit. Est-ce qu'il y a une façon dans Bill Noir de produire une synchronie entre les auteurs d'une certaine manière, c'est-à-dire dire, voilà, cette revue et cette maison d'édition fait quelque chose qui, sans qu'on définisse une lignée, est dans une nébuleuse artistique qui est celle-là, une façon de faire travailler tout le monde ensemble aussi à l'intérieur de la revue.
Alors, il y a eu une certaine effervescence à un moment dans la revue, à un moment où il y avait le plus d'excitation, il y a, je sais pas, 7, 8 ans, 10 ans, quelque chose comme ça, quand la revue était plus tout à fait à ses débuts, mais qu'elle commençait un peu à avoir un rythme de croisière. À un moment, on a quand même réussi à en faire paraître 2 ou 3 par an pendant un certain temps. Donc là, ouais, quand on envoyait des petits courriers avec les petits délais, des emails, des téléphones, tout ça, on sentait que les auteurs en parlaient entre eux, qu'il y avait un petit truc. Il y a même eu des espèces d'essais de correspondance autour d'un voyage à Sarajevo que s'était fait avec 4 auteurs, où chacun donnait sa version du voyage, des choses comme ça. Donc mais ça a disparu. C'est aussi une raison qui fait qu'on a moins envie de publier la revue, quoi. C'est-à-dire qu'on sent que les auteurs se forcent un petit peu plus à faire quelque chose comme ça. Ça les motive un peu moins. Pourquoi, je ne sais pas. Peut-être parce qu'il y en a eu beaucoup, il y a eu beaucoup de participation à des collectifs, beaucoup de revues, beaucoup d'anthologies sur les 15 dernières années, donc peut-être ça les intéresse un petit peu moins, je ne sais pas. Voilà, je ne sais pas si j'ai répondu à la question.
On va tout doucement achever, sauf Nicolette avait une
petite... Oui, non, je pour rebondir sur ce que disait Stéphane, est-ce que... Je ne sais pas si je sais avec Frédéric Peters que j'en parlais, je pense qu'il m'avait dit que vous étiez des éditeurs exigeants. Est-ce que vous avez le sentiment que vous êtes très présent sur les bouquins ? Parce qu'il y a des éditeurs qui laissent un peu l'auteur avec son œuvre et puis qui interviennent tardivement. Est-ce que vous suivez vraiment, quand vous avez un projet, vous suivez le bouquin très près, étape par étape, peut-être planche à planche ? Ou est-ce que vous laissez une marge et vous intervenez plus tard quand il y a déjà une matière qui est très présente et recorrigée après ? Ou est-ce que vous êtes... Vous considérez que vous êtes des éditeurs qui suivaient vraiment le bouquin de la première planche, du synopsis, dès le début, en étant très présent?
Ça dépend des auteurs, en fait. Ça dépend de la demande des auteurs, en fait. Il y en a qui, en fait, pour eux, c'est l'intérêt, c'est qu'on leur foute la paix. C'est qu'ils aient un espace de liberté totale, quoi. Je m'en souviens, par exemple, avec Nadia Ravicioni, qui a fait un bouquin que je trouve génial, mais qui a peut-être pas tout à fait trouvé son public. Et qui a un bouquin assez foisonnant, assez touffu et tout ça, quoi. Elle me disait, mais il faudrait peut-être enlever des pages. Je lui dis, tu fais ce que tu veux. Il ne faut pas avoir peur de faire 200 pages ou 300 pages et tout ça, quoi. Elle avait peur tout d'un coup que ça soit trop long, que ça coûte cher, des choses comme ça. Je lui dis, voilà, fais ce que tu veux et ça n'a pas d'importance, quoi. Donc, je crois qu'il faut le repréciser aussi, qu'ils ont un espace de liberté chez Atrabil et qu'il ne faut pas... Parce que, bizarrement, les auteurs, parfois, ont, comment dire, intégré cette espèce d'idée... qu'un livre, il faut que ça marche, quel va être le prix de vente, est-ce que vous allez gagner de l'argent avec, et tout ça. On essaie de les débarrasser le plus possible de ces questionnements-là, en fait, pour qu'ils aient juste à penser au reste, quoi, c'est-à-dire à l'art et à leur œuvre. Après, il y a des auteurs, donc voilà, comme ça, après Frédéric, il nous envoie 30 pages par 30 pages, et on discute ou pas. Il y a des auteurs qui ont vraiment besoin, Par contre, qu'on soit beaucoup plus présent, qu'on regarde des choses page par page et tout ça, c'est très variable. Et nous, on s'adapte vraiment à ce que... Parce que pour moi, le boss, en fait, c'est l'auteur, quoi. C'est lui qui a raison, plus que nous. Donc, des fois, c'est un peu conflictuel. Mais c'est rarement très méchant, quoi.
Peut-être la zone ou la surface sur laquelle on discute le plus, c'est les couvertures, évidemment.
Oui.
Parce qu'on a une... c'est pas pour des considérations commerciales ou quoi que ce soit, mais c'est vrai qu'on a une marque de fabrique, je dirais, un peu graphique. Et, donc on aurait peut-être tendance à imposer une certaine démarche. Puis après, ben, y a des auteurs qui ont beaucoup plus de caractère, donc ils veulent imposer autre chose. Et puis il y en a qui s'en foutent complètement et puis on bricole.
Oui.
Ben après, ça arrive que sur une fin d'histoire ou une transition au milieu d'un livre, il y a des trucs qui coincent un peu. Donc c'est vrai qu'on discute, mais après c'est une discussion. On ne va pas non plus imposer.
C'est une question d'équilibre aussi, sans
doute,
de trouver ça. Alors on parle des livres justement, on va clôturer un peu là-dessus pour... Nous parliez peut-être un peu des bouquins qui sont annoncés. On parlait de Chioï là tantôt. Je crois qu'il y en a un qui sort bientôt ici au début du printemps. Donc, qu'est-ce qu'il y a comme publication qui se prépare ou des
projets qui... Il y a la conversion qui vient de paraître.
Voilà. Et des projets qui vous tiennent à cœur. Enfin, des choses dont vous avez envie de nous parler là sur le temps qui nous reste.
Moi, je suis très mauvais pour faire la titre de mes livres en fait. Donc, j'ai pas tellement envie de le faire. Mais le truc qui est marrant, en fait,
c'est... demander aux gens d'aller voir sur votre site.
Après.
D'accord. Le sujet qui fâche.
Juste, ce qui est marrant, là, ce qui est une tendance intéressante, entre guillemets, c'est que sur les 6 premiers mois, on fait quasiment que des traductions. Donc, ça, c'est juste une tendance qui est intéressante, c'est de voir justement que les auteurs genevois ont grandi. Et que soit il y en a qui, pour des raisons commerciales, ont plus de difficultés à faire de la bande dessinée, soit aussi les auteurs avec les travails qui se font faire des livres autre part. Donc ça, c'est un truc qui nous frustre un peu. Donc c'est vrai qu'on a envie, sur les peut-être semestre prochain, l'année prochaine, d'essayer un peu de... Ça fait un moment d'ailleurs qu'on essaie de faire ça. De revenir un peu avec les auteurs avec lesquels on a commencé, quoi.
Oui.
Pas de les récupérer.
Non.
Les récupérer, mais des gens comme Tirabosco, comme Vazem et tout ça, on a vraiment travaillé bien pendant des années et je trouve dommage, quoi. Et si ça coince chez eux, c'est des raisons qui sont pas toujours des bonnes raisons, quoi. Donc c'est vrai qu'on a envie de revenir un peu sur ces auteurs-là. Et puis la tendance aussi en ce moment, c'est de faire, on fait beaucoup de livres hors collection, donc on a aussi envie de nous amuser, quoi. De faire des livres qui sortent des formats qu'on a fait, d'utiliser d'autres trucs, voilà. Sur le site internet.
Donc
on n'a pas vraiment de site internet, mais on peut annoncer en grande première qu'il est quasi terminé.
Waouh. Alors là, je suis sûr qu'il va y avoir des manifs là dans la rue dès ce soir.
D'ailleurs, on entend déjà les gens.
Ah oui, des manifs de contentement, évidemment.
Non, on a un site qui est quasi prêt. Voilà. Ouais. Moi, c'est vrai que je suis super attaché au papier, donc pendant un moment, je m'en préoccupe pas plus que ça. C'est vrai que maintenant que le catalogue papier, on n'en a pas fait. Ce serait peut-être important d'avoir cette présence-là. Puis c'est aussi, en fait, sans vouloir trop se lancer des fleurs, c'est aussi par souci de perfectionnisme, qualitatif, ouais, on a envie de faire un truc qui soit vraiment bien, pas un truc qu'on a envie de... Il n'y a rien de plus affreux que les sites internet laissés à l'abandon. Moi, je déteste aller sur un site internet et voir apparaître, puis il y a un truc de 2008 qui est en fait jamais sorti. Je trouve affreux, cette espèce de vaisseau fantôme comme ça, quoi. Donc, on n'a pas envie de tomber dans ce piège-là. Donc, on veut un truc qui soit facile à faire et puis qu'on ait envie de faire et tout ça. Donc, il est vraiment quasi fait, je pense, que d'ici 1 ou 2 mois.
Il faudra qu'on vérifie celui de l'emploi.
Ouais.
Moi, Stéphane. Je sais. Bah, merci beaucoup.